Alors bonjour messieurs, vous êtes donc les auteurs d'Eleusis. Alors pourriez-vous vous présenter? Alors donc toi qui es-tu, le gros barbu?
Alors le gros barbu, donc Nicolas Tomelin, donc l'un des deux auteurs d'Eleusis.
D'accord. Et toi tu es?
Lionel Panhaleu, donc le deuxième auteur d'Eleusis.
Donc je n'ai entendu parler de votre jeu finalement que très récemment et j'ai été attiré en fait par les vidéos que vous avez mis en ligne qui finalement sont plutôt sympas. Alors on vous voit switcher d'un décor à l'autre.
Beaucoup d'effets spéciaux.
Oui c'est assez formidable. Non, trêve de plaisanterie, c'est assez sympa parce que ça permet de voir un peu de quoi parle le jeu, mais rentrons un peu plus précisément dans les détails. Donc, pourrais-tu me le pitcher, s'il te plaît?
Ok. Alors, dans Eleusis, on joue des humains, en fait, qui ont un pouvoir particulier. Ils sont capables de maîtriser la chance, le destin. Donc, pour donner un exemple rapide sur leur pouvoir, c'est par exemple, c'est des gens qui vont être capables de décider qu'au bout de la rue, il y a un café, parce que ça les arrange, ils ont envie d'aller prendre un café. Sauf, ce qui se passe, c'est qu'ils ne font pas apparaître magiquement un café. En fait, ils modifient la chaîne d'événements pour qu'un jour, quelqu'un ait décidé de construire ce café. Il y a eu un premier gérant, puis un deuxième, puis un troisième. Le café a été revendu, puis re-revendu. Peut-être que la mafia y était, peut-être pas, ainsi de suite. Et ce café y était, avec des gens qui ont été. Ça fait partie des souvenirs de tous les gens et tout ça. Donc, ils modifient, en fait, vraiment, les événements.
La causalité.
La causalité, voilà. Et donc, à partir de là, bah, forcément, ces gens ont d'un seul coup pas mal de chance, sont naturellement doués par ce côté toujours chanceux de toujours avoir la bonne étoile en fait. Donc ben vont acquérir une certaine forme de puissance, vont être un peu riches, puissants, et ça dès le départ en fait, dès le départ du jeu. Et il va se passer donc naturellement, ils vont vivre des intrigues. Ils vont vivre dans une société secrète, c'est un jeu qui se passe dans le monde contemporain. Ils font partie d'une société qui s'appelle la société d'Eleusis, les mystères d'Eleusis, et vont vivre des intrigues avec d'autres mystes.
Oui, on se doute que des gens qui ont ces pouvoirs, à partir du moment où ils ont gagné au loto deux ou trois fois, ils finissent par s'intéresser à un petit peu autre chose.
Exactement.
Et ils finissent par faire ce que font tous les hommes, c'est-à-dire de la politique.
Exactement, c'est exactement ça. Une bonne partie du jeu est basée sur l'influence et comment gérer cette influence. D'ailleurs, même au niveau, disons, système, il y a tout un système d'influence qui permet de... Oui. De manipuler un peu plus finement l'influence que dans la plupart des jeux où si on prend l'exemple d'un jeu connu pour la cité Vampire où voilà l'influence c'est une ligne sur le ça va être une ligne sur l'historique mm-hmm. Et là ça va être une demi-page de la feuille de perso où on va expliquer les pyramides d'influence, donc comment vous contrôlez dans telle société, qui vous contrôlez, comment vous le contrôlez, ainsi de suite, mm-hmm. Pour que ça devienne vraiment un élément de gameplay et que ça puisse vraiment être utilisé par les joueurs en partie en fait.
En fait il existe pas mal de jeux où il y a des notions de contact, d'alliés, de choses comme ça. Mais là, finalement, c'est quelque chose de plus large. C'est-à-dire, ça concerne pas pas précisément des personnages, enfin pas des PNJ, mais plutôt un ensemble de PNJ ayant un certain type de fonction dans la société.
Exactement. L'idée de dire, c'est que vous êtes capable de savoir comment dans une société quelle qu'elle soit, que ce soit alors, on parle société au sens large, ça peut être aussi bien le monde des laboratoires pharmaceutiques que la CIA, que la mafia, que ce que vous choisissez, et vous allez savoir si vous le contrôlez ou si vous prenez des informations au niveau de base, chez les cadres ou bien au niveau dirigeant, ça vous permet de faire des choses et d'avoir des informations différentes suivant les niveaux en fait.
D'ailleurs j'ai une question à ce sujet, donc on voit que la pyramide est découpée en trois, donc la direction, l'encadrement et puis les employés, ouvriers, etc. Et ça sert à quoi d'avoir des contacts parmi les employés d'une boîte?
Alors c'est très très utile, imaginez tout ce que peut ramasser un balayeur de la CIA par exemple. On serait impressionné du nombre d'informations, de la puissance en fait, des couches les plus basses de la pyramide d'influence. On voit par exemple, je sais pas, dans Fight Club, tout marche comme ça, les seuls contacts et la seule influence qu'ils réussissent à construire avec leur réseau, c'est dans les couches des simples exécutants de toutes les entreprises, et pourtant ils sont capables de créer un bordel pas possible.
De poser des bombes.
Par exemple, on peut pas, faut pas sous-estimer le pouvoir des petites mains.
Alors, étant donné qu'on joue des personnages qui sont extrêmement puissants, du coup, ça influe beaucoup sur la structure des scénarios. J'ai vu que vous avez essayé de donner quand même pas mal d'outils qui permettent au MJ un petit peu de faire sa sauce avec tout ça, c'est-à-dire en gros d'écrire des lieux, donner des PNJ et puis essayer de faire en sorte que les personnages rentrent dedans ou en tout cas rebondir sur ce que les personnages font. Qu'est-ce que tu pourrais donner un peu comme aide pour le MJ pour qu'il puisse s'emparer de cette espèce de structure qui est étonnante par rapport aux autres jeux de rôle. Comment s'approprier ça en fait?
En général, quand on construit un jeu de rôle pour Elosis, mais comme dans beaucoup de jeux à intrigue comme ça, on construit surtout un setting. Donc on réfléchit aux différents endroits ou scènes auxquelles on va peut-être s'intéresser et aux personnages qui existent déjà dans ces endroits ou dans ce milieu. Par exemple, le scénario qui est dans le livre, qui est présenté dans le livre de base, c'est le milieu de la mafia méditerranéenne et du trafic de drogue et tous ces personnages et intervenants. Donc c'est plus un setting qu'un scénario. À l'intérieur, on a écrit une petite ligne directrice sur bon où on commence et qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
J'ai remarqué qu'à chaque fois il y avait une espèce de petit paragraphe qui généralise ce que vous avez fait.
Ah ouais, on a essayé de faire ça parce que c'est vrai qu'on a, à force de maîtriser comme ça, on a développé quelques petites techniques, des personnages, types de personnages à avoir qui peuvent aider le maître de jeu au moment de la réalisation de son scénario. Par exemple, un personnage que personnellement j'ai dans tous mes scénarios, c'est le personnage que j'appelle Joker. Il a aucune raison particulière d'être là, il n'a pas d'intérêt direct sur la réussite ou l'échec de la mission ou du scénario pour les personnages, mais pour des motifs plus ou moins obscurs, il s'intéresse à la question et il peut venir éventuellement leur donner un coup de main à n'importe quel moment. En général, c'est un personnage qui est pratique à sortir dans n'importe quel jeu où il y a un tout petit peu d'enquête ou d'informations à chercher. Si à un moment, les joueurs bloquent parce qu'ils n'ont pas d'idée sur comment récupérer, comment passer à l'étape suivante, avancer dans leur scénario, il suffit d'amener le personnage Joker qui vient les sortir de la mouise du problème, qui vient leur donner les cartes pour s'en sortir.
D'ailleurs, peut-il y avoir véritablement une enquête à partir du moment où ils peuvent tomber tout de suite sur un indice majeur par la simple chance?
Après, tout dépend de ce que veulent faire le joueur. Est-ce qu'ils ont besoin de savoir exactement ce qui s'est passé ou est-ce qu'ils veulent avoir une explication? Parce que s'ils font apparaître un indice, c'est comme d'habitude, c'est pas magique. L'indice, il n'apparaît pas nulle part. Donc, faire apparaître l'arme du crime, ça a toutes les chances de fabriquer le crime. Même s'il n'y en avait pas au départ.
C'est vrai.
Donc, c'est risqué d'utiliser ses pouvoirs sur ce genre de truc.
C'est assez vrai. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure et je vous disais que j'avais été un poil déçu par le scénario, du fait que l'on joue finalement des gens qui sont dans la mafia, alors que comme je le disais tout à l'heure, il suffit de gagner 2 fois au loto pour ne pas avoir à se frotter à des gens qui sont peu recommandables. Alors pourquoi ce choix en fait?
Alors parce qu'on a trouvé, je pense qu'on a trouvé que c'était un setting qui était assez sexy. On a rarement l'occasion de jouer dans un setting de mafia réaliste, contemporain, proprement fait, et surtout de jouer, je dirais, à la tête d'un cartel en fait, en quelque sorte.
Oui.
C'est le moment de. Et comment ça s'organise vraiment si on doit le faire nous-mêmes, qui est assez intéressant et assez rigolo dans ce scénario-là, je pense. Après, c'est vrai que c'était un choix un tout petit peu cornélien quand on l'a écrit, parce qu'il y avait la première version de ce scénario était en 2 morceaux, et on avait écrit 2 gones en fait. Il y avait le gone de méchant mafieux et un gone de gentil samaritain qui livrait des médicaments en Afrique. Et leurs deux intrigues.
Vous trouviez ça un peu trop bateau peut-être
Ouais, peut-être que c'était trop facile.
Trop non, cucu.
Le problème n'était pas. Non, c'est pas que c'était cucu, surtout que je pense que, étant donné ce qui existe en jeu de rôle aujourd'hui, le fait de pouvoir jouer justement des gens qui, non, sont plein de bonne volonté, qui sont là pour sauver le monde, la terre et les animaux, c'est pas tous les jours et que ça fait quand même plaisir de temps en temps. Au contraire, c'était que. À un moment, on s'est dit, bon, ce scénario avec 2 gones en 2 parties qu'on peut jouer en parallèle, c'est trop compliqué. C'est difficile à vraiment jouer en vrai, il faut qu'on choisisse l'un des deux. Alors est-ce qu'on joue le gone des gentils en Afrique avec leurs médicaments, ou est-ce qu'on joue le gone des méchants mafieux? Et finalement, je pense qu'il y a juste eu plus d'affinité avec le gone des méchants mafieux, on s'en sortait mieux, et puis les personnages avaient plus de profondeur.
C'est parce que vous êtes des méchants dans le fond et...
It's good to be bad.
Ouais, voilà. Voilà. Ils font le mal mais ils le font bien.
Ouais, voilà.
Et alors j'ai une question, comment est né ce jeu? D'où est venue cette idée
Alors, on était dans un café, et à un moment, on s'est dit...
Il était très tard.
Non, c'était dans l'après-midi. Ouais, il faisait jour, on n'avait pas vu. Et là, on s'est dit, tiens, si on écrivait un jeu de rôle. Donc, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a eu cette envie de dire, on pourrait éventuellement écrire un univers, écrire un jeu de rôle, pourquoi pas. Très, très vite, je crois, le jour dans l'après-midi même, une heure plus tard, on avait eu l'idée de... écrire un jeu de rôle où on aurait des personnages qui ont des pouvoirs sur le destin. C'était vraiment la pierre fondatrice. Mm-hmm. On n'avait pas encore toute l'assise sur la mythologie grecque et l'histoire antique qu'on a aujourd'hui, mais c'était la pulsion primaire. Et tout de suite, dès le départ, on s'est dit qu'on voulait faire un jeu de rôle dans l'idée de le faire publier, de le sortir, de l'éditer, etc. Donc,
dans une optique plutôt sérieuse.
Pas dans une optique de le jouer avec nos copains, dans une optique de faire quelque chose de nouveau que nous, on n'avait pas vu et qu'on aimerait bien voir dans un magasin, en fait.
D'accord. Et est-ce qu'il y a eu tout de suite ce côté, James Bond, ou à base de yacht, de mannequins, de champagne qui coule à flot
Je pense que ça arrive assez rapidement, en fait. Tout bêtement par une réflexion assez logique sur le fait que si les personnages contrôlent le destin, et on a été très rapidement dans une échelle de pouvoir assez haute, enfin ça dès le départ, on était rapidement dans une échelle de pouvoir assez haute, donc naturellement les joueurs ont de l'argent, ont disons de l'influence, ont du pouvoir disons terrestre, je vais le dire comme ça, facilement, donc forcément ça a tout de suite mis le jeu dans un certain univers par une sorte de glissement logique, en fait.
Oui. En fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est que la construction de l'univers, elle se fait de manière très très logique. À un moment, on part de deux trucs très simples qui sont de dire on va jouer dans l'univers d'aujourd'hui contemporain et on va jouer des gens qui peuvent manipuler le destin. Parti de là, en toute logique, bah oui, forcément, c'est les maîtres du monde. Forcément, à choisir, ils doivent être riches et puissants, ils doivent plutôt vivre dans des yachts et des villas que dans des vieilles caves. À choisir, ils doivent se réunir ensemble pour décider peut-être du destin du monde, mais ils ne sont probablement pas tous d'accord. Donc ils doivent créer des cercles d'influence qui finalement s'entrechoquent et créer des sortes de luttes internes, intestines. C'est tout ça, et en fait, finalement, découle un peu du postulat de base, je pense.
D'accord. Et comment est venu tout l'aspect... Grèce antique
Alors ça, tout ça vient du dictionnaire de l'ésotérisme, on peut le citer. Je crois même qu'il est cité dans les remerciements.
Le dictionnaire de l'ésotérisme de Jean Servier aux éditions PUF.
D'accord.
En fait, au moment où on a décidé de faire des personnages qui avaient été maîtres du destin, moi j'avais ce formidable livre chez moi. Et je l'ai compulsé donc à tous les articles qui parlaient de destin, d'elfes, d'oracles... de tout ce qui existait un peu sur la question. C'est génial, c'est un dictionnaire en plus avec des renvois d'un article à l'autre, donc tu perds des heures à lire plein de choses sur plein de cultes antiques, de mystères, de trucs ésotériques. Et à un moment, je suis tombé sur le paragraphe sur Eleusis et les mystères d'Eleusis. Et là, c'était génial. Alors, il existe une ville dans la Grèce antique avec un culte mystérieux dont on ne sait absolument rien. Même les anciens n'en ont laissé aucune trace parce qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler dans leurs écrits. Donc, on ne sait pas qui l'a formé. On sait qu'il faisait des processions, que c'était Eleusis, qu'il y avait des hieras, des objets sacrés dont on ne sait absolument rien, qu'il y avait un enseignement.
Ah oui, les hieras existent.
Les
hieras
existent historiquement. Hein, c'était des objets sacrés, des mystes, les initiés au mystère d'Eleusis. Qui étaient présentés à chaque année aux nouveaux initiés lors de leur procession. Ils faisaient leurs vœux et on leur montrait les hieras. Puis il y avait une cérémonie d'initiation pour laquelle on ne savait pas trop ce qui se passait. Alors on ne sait pas ce que c'était les hieras, on ne sait pas ce qu'était cette cérémonie d'initiation. Mais voilà, une fois que j'ai lu, voilà, on a lu ce paragraphe, on s'est dit c'est génial comme base, on va s'en servir. Et on va commencer à construire l'univers là-dessus. Du coup, après, on a très vite décidé de se focaliser sur une seule base mythologique, sur une seule base ésotérique en fait. Il faut voir que c'est pas tant mythologique. Que historique finalement, puisque les mystères d'Eleusis ont vraiment existé, même si on en sait peu de choses. On s'est beaucoup basé sur ce qu'on sait de l'oracle de Delphes et des pratiques de culte et de mystère dans la Grèce antique et dans la Rome antique. Mais on a essayé de garder ça totalement circonscrit dans cette sphère ésotérique-là. pas de cabale, pas de dieu viking, pas de... aucun rapport avec la Bible, par exemple. On a décidé de pas mélanger, parce qu'on aimait l'idée d'avoir vraiment une base ésotérique cohérente, en fait.
D'accord. D'ailleurs, à propos d'ésotérisme, il y a dans le livre plusieurs propositions, en quelque sorte, d'explications de fond sur le pourquoi du comment les mystes sont là et pourquoi est-ce qu'ils ont ces capacités à influencer la trame.
Bien sûr, mais les mystes eux-mêmes sont tout à fait curieux de leurs origines,
voilà, parce que
tout autant que les hommes.
Finalement, ce sont des hommes comme les autres, à part ça. Donc, ils ne sont pas plus malins, ni ils n'ont pas finalement plus de connaissances que ça, à part leur capacité à sentir l'enchaînement de la causalité. Est-ce que ces théories sont justes ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une théorie qui est encore différente de celle qui est dans le bouquin, des deux qui sont dans le bouquin ?
Alors, on a toujours essayé de ne pas prendre parti sur nos propres théories.
Oui, effectivement. Mais le principe de base a été de dire, pour qu'un système magique marche, quel qu'il soit, faut qu'il soit cohérent d'un bout à l'autre. Mm-hmm. Donc, le meilleur moyen pour qu'il soit cohérent, c'est d'avoir une théorie qui permette de valider chaque élément. Et donc ça nous a posé pas mal de questions pendant la création, parce qu'il y a vraiment eu des moments de trucs et comment ça marche, comment ça se raccroche, comment on y arrive. Et en fait, effectivement, en écrivant ces deux théories, vraiment en se disant voilà, ça pourrait vraiment marcher comme ça théoriquement, ça nous a vraiment aidé en plus après pour être capable aussi de faire des choix au niveau gameplay, au niveau jeu, en se disant ok, cette partie là on va pouvoir ça va marcher comme ça, ça va marcher comme ça, ça va nous donner telle réponse. Et effectivement, non, il n'y a pas une troisième théorie qu'à la nôtre, quoi.
D'accord.
C'est là où en sont actuellement les recherches mystiques. Elles en sont là-dessus, voilà.
D'accord.
Moi, j'aime beaucoup l'idée que les mystes enquêtent sur leur propre passé, sur leur propre histoire et sur leur propre magie, tout à fait à la manière des hommes, avec leur étude historique, leur archéologie et leur science. Mais c'est les mêmes techniques pour les mêmes problèmes, avec le même manque de réponse finale, en fait.
C'est définitif. Il y a un petit encart, justement, à un moment, une petite anecdote dans le livre, où un myste explique à un autre myste que, en fait, les mystes n'ont pas été plus malins que les autres hommes pour être capables de conserver leurs archives. Donc, on a autant les mêmes connaissances parcellaires, les mystes ont autant les mêmes connaissances parcellaires que peuvent avoir les autres hommes, enfin,
oui,
nous, de notre histoire, parce que oui, personne n'a rien gardé, quoi.
Alors, il y a un élément qu'il ne me semble pas avoir vu, c'est les mystes, quelle proportion de la population représentent-ils ?
Les mystes sont évalués entre 2000 et 4000, je crois qu'il y a même un chiffre exact, en fait.
Ah oui, j'ai raté cette information.
on l'a fait.
2711, voilà, on a des spécialistes.
2711.
C'est le dernier recensement qui date que de 2009 ou 2010, donc ça a dû changer depuis. Mais...
Et cela sans compter toutes les chrysalides, donc, qui sont les mystes non révélés, même pas à eux-mêmes.
Qui sont potentiellement nombreux, les chrysalides, parce que finalement on est aussi limité par le nombre de Yara. Donc,
oui.
Même si quelques chrysalides réussissent à devenir mystes sans le contact d'une Yara, c'est plutôt le cas rare et exceptionnel. Mm-hmm. Donc il pourrait y avoir des dizaines de milliers de chrysalides et seulement quelques centaines de Yara qui traînent, donc c'est pour ça que ça se renouvelle pas beaucoup.
D'accord. Aussi un autre truc, c'est la couverture du jeu est assez étonnante. Et comment c'est fait le choix de ce dessin de couverture? Donc je le mettrai en illustration de cette interview, parce que finalement c'est une scène où il ne se passe pas grand chose, où il y a juste un personnage de dos, un autre de face mais très loin. Qu'est-ce que vous vouliez représenter, en fait, dans le...
C'est une bonne question à poser à LG, le dessinateur, déjà.
Oui, bien sûr.
C'est sa faute.
il a créé cette couverture sans vous consulter.
Je crois que les indications qu'on a données, si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens, c'est qu'on voulait quelque chose d'assez lumineux, en fait.
Oui.
On voulait représenter le côté belle vie des mystes, en fait. C'était ça qui nous intéressait vraiment au départ.
C'est vrai que c'est ce qui ressort aussi.
Et LG, en fait, nous a très rapidement nous a dit. Lui, il a eu un flash, en fait, sur cette couverture avec un grand ciel très dégagé et en fait un paysage assez bas. Et puis après, ça a été recomposé avec un personnage de dos qui a en plus, voilà, on s'est créé une petite histoire. Le personnage de dos, un pistolet derrière lui, il y a quelqu'un qui l'attend, donc on sait pas trop si lui attend la personne et on est dans une scène de tension.
Avec une grosse bagnole luxueuse.
Ouais, voilà, et on sait pas trop si c'est pour une scène de tension, si la nana vient le chercher. Enfin, ça. Et l'idée, c'était un peu ça, c'était montrer un monde d'aventure, un peu luxueux. Et en même temps qu'il soit
et en même temps il y a l'allusion à la Grèce antique avec cette colonne sur la gauche
et de se dire en plus le choix de la chorale est vraiment chouette parce que ça donne d'un seul coup plein de couleurs à l'illustration et c'est et rentrer un peu dans cet univers en même temps un peu bande dessinée qui se retrouve dans toutes les illustrations du bouquin pour le coup et qui fait un peu la ligne rouge quoi.
Il faut voir qu'on est quand même dans un jeu et un univers qui est c'est le cinéma, c'est la bande dessinée, on va jouer des personnages qui ont peu de limites et pour qui l'aventure prend toujours un tour cinématographique, c'est le cas de le dire, parce que dès qu'il leur manque un élément ou quelque chose pour s'en sortir et que ça aille tout seul dans leur histoire ou pour que le scénario tourne bien, ils l'inventent eux-mêmes, ils en ont le pouvoir. Donc à partir de là, ils vivent dans une sorte de film, effectivement.
Ouais, c'est très James Bond de ce point de vue. D'accord, voyons voir, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous demander? Des suggestions, des envies de dire des choses?
Zut, la question à blanc, tu sais. La question à blanc. Si, un truc qu'on a essayé de faire en écrivant le livre, je sais pas si. J'espère que ça transparaît pas mal en le lisant, mais c'est vraiment voulu. À la fois, on essaye de bien faire le tour de toute la question magique, sociétaire, sociétale de l'univers, comment il est organisé, comment fonctionne la magie, un peu à fond, vraiment à répondre à toutes les questions que nous on s'est posées, que des gens nous ont posées au fur et à mesure de la conception. À la fois, il y a toute une série de, je dirais, d'appendices, de petits crochets qui restent sur cet univers qu'on a. Et vraiment de manière express, on a exprès rien écrit dessus. Il y a des parties entières, on suggère éventuellement que peut-être il se passerait quelque chose à cet endroit-là, mais on n'en fait rien du tout. C'est beaucoup de petits appels du pied au maître de jeu qui prendrait ce livre pour écrire sa propre couche de mystère supplémentaire, sa propre idée dessus. L'idée qu'il y a derrière, c'est jamais il y aura une version officielle supplémentaire sur tous les petits trucs qu'on a laissés blancs exprès dans l'univers qui viendra écraser ce qu'auraient construit les maîtres de jeu par dessus.
Mais d'ailleurs, ce jeu fait partie de la gamme DOA de John Doe, c'est-à-dire donc Dead on Arrival, et il n'y aura pas de supplément en plus. Cependant, est-ce que vous ferez du petit suivi à vous ou quelque chose ou pas?
De toute façon, on fait un petit SAV sur le forum de John Doe. Donc, si vous avez des questions, des problèmes dans vos parties, vous pouvez toujours venir nous raconter vos histoires. On y va régulièrement, on répond à toutes les questions.
D'accord. Eh bien, merci messieurs.
Je vous remercie.
Ciao.